Bonjour le peuple français. Ceci est un communiqué du Sarkoko, super-héros communiste, parti à la chasse des malversations du terrible Nicolas Sarkozy. Alors comme ça, on avait volé le joli scooter du fiston? Mais papa envoyait sa police faire des relevés d'empreintes et des prélèvements ADN. Résultat, 10 jours après, le scooter est à la maison et 2 arrestations. Il est fort, ce papounet. Fais attention, Nicolas. Sarkoko, t'as à l'œil.
La semaine dernière, la France a rendu hommage aux justes qui ont sauvé des juifs pendant la dernière guerre. Hier, la police a arrêté les voleurs du scooter du fils Sarkozy à cause de leurs traces ADN. Quel rapport ? Dans le monde du fichage génétique et de la biométrie, il ne peut plus y avoir de justes parce que faire des faux papiers ou échapper aux recherches devient impossible. Alors au lieu de brailler au scandale parce que toutes les victimes de vols de scooters ne bénéficient pas de la recherche d'ADN, on ferait bien de s'opposer maintenant au fichage génétique et à l'invasion de la biométrie, avant qu'il soit trop tard.
Oui, bonsoir Monsieur Mermet, c'est Gilbert de Dijon. Voilà, dans le monde daté de demain, Glucksmann nous apprend qu'il n'allait pas voter Ségolène Royal, il allait voter Sarkozy. Et qu'il nous dit aussi que sa famille d'origine, c'était la gauche. Moi, écoutez, moi, des cousins comme lui, j'en veux pas. Et puis, c'est pas un scoop. Hein. J'étais persuadé que ce Gugus-là allait voter Sarkozy. J'attends l'âne Goupil, ce qu'il va dire, sûrement pareil. Fickenkraut, sûrement pareil. Bolkner, sûrement pareil. Et Lévy, il est entre deux eaux, là, il sait pas trop quoi faire. Hein. Donc voilà, tout ce joli monde, tous ces gens qui étaient pour la guerre d'Irak, et ben voilà, ils sont tous chez le petit Nicolas, le petit César, et puis voilà, c'est pas étonnant, on attend Kouchner, peut-être aussi Kouchner, peut-être bien qu'il va virer sa coutille aussi. Bien. Voilà, merci, c'est pas un scoop, et puis le monde qui donne ses colonnes là, pour nous apprendre ça, c'est vraiment lamentable. Allez, bonsoir, au revoir.
Oui, salut, t'as entendu Jean-Marc Sylvestre ce matin? Ah, c'était joli sur Microsoft. Il a pas vu que c'était un monopole, Microsoft, 90% du marché. Ah, par contre, quand il parle d'EDF, là, il y a du monopole, ou la Poste, ouais. Mais pas Microsoft, c'est marrant quand même. Ah, il manque un truc, hein. Allez, ciao.
Bonjour Daniel, c'est Pascal. Voilà, hier, j'ai regardé un reportage édifiant sur France 2, dans l'émission Complément d'enquête. Il s'agissait d'un reportage sur des salariés d'une usine de métallurgie de Beugny-sur-Meuse, dans l'est de la France. Une entreprise où Sarkozy est venu récemment faire un numéro de démagogie. En fait, on y voit des salariés qui travaillent en CDI, pas d'emploi précaire, et qui ont un mal fou à finir des fins de mois. Des salariés en somme, comme il y en a des millions en France. Et on assiste à une réunion entre le patron et quelques salariés pour parler des objectifs à tenir en 2007. En fin de cette réunion, le délégué syndical prend la parole et pose la question qui fâche, à savoir l'augmentation des salaires pour 2007. Et bien là, le patron donne une explication brève et logique. Impossible, car pour garder une compétitivité avec de telles charges sociales, c'est impossible. Aucun des salariés ne conteste cette explication. Ensuite, le patron s'en va et les salariés se mettent à discuter entre eux. Alors là, on assiste à une prise de bec entre les salariés et le délégué syndical. Il reproche à ce dernier le niveau de vie des pauvres, des plus pauvres qu'eux, qui peuvent se faire soigner gratuitement les dents, alors qu'eux ont beaucoup de mal à y parvenir. En fait, ce qu'il reproche à ce délégué, c'est bien ces charges sociales qui permettent aux plus démunis d'accéder aux soins et qui bloquent le salaire des travailleurs modestes, des pauvres qui tapent sur le dos des pauvres. Voilà à quoi on assiste. C'est édifiant. Personne ne conteste le patronat quand il y a de tels arguments, de peur de rejoindre cette couche de très pauvres. En fait, dans notre démocratie, il faut entretenir une couche de misère pour éviter que la couche qui se trouve juste au-dessus se révolte. Il y a comme cela toujours plus malheureux que soi. Elle est là, la clé de la réussite de notre belle démocratie.
Merci pour les satellites, ça m'a rappelé le collège, c'était super. Bon, oui, j'ai vieilli. Et d'ailleurs, j'avais découvert ça sur M6. Eh ouais, sur M6 et en clip, je me souviens, j'avais 14-15 ans, et ça passerait plus, ça. Ça passerait plus du tout, maintenant. Une chanson comme ça passerait pas à la télé, je pense pas. Non, je regarde pas la télé, mais il me semble. C'est incroyable le chemin qu'on a fait depuis 15 ans, la régression, incroyable. Et ouais, bon, bah, en tout cas, c'était une super émission. Merci encore. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je me souviens m'être aussi formé intellectuellement au départ sur des morceaux punk aussi, qui critiquaient le système américain, le morceau des Clash, I'm the Born with the USA, le morceau des Dead Kennedys, groupe américain cette fois, groupe qui brûlait le drapeau américain à chaque fin de concert. Et ouais, ça fait du bien de se remémorer tout ça, quoi. Merci encore. Et puis, bah, bonne continuation. Hein. Ciao.
Et ben voilà, on savait pas que ça allait faire tout ça. Hein. L'émission d'hier, l'émission musicale sur l'Amérique vue par la chanson et les chanteurs français. En tous les cas, ça vous a amusé, ça vous a intéressé. Il y a des analyses assez pointues d'ailleurs, hein, dans tous les sens. Alors, ceux qui disent, oui, si les Ricains n'étaient pas là, et puis voilà. Mais c'était bien. Voilà. Aujourd'hui, alors, c'est le jour... comme chaque mois, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique. Là, ça va être autour du numéro de février. Et alors, le Monde Diplomatique change. Il y a des nouvelles pages, il y a des nouveaux papiers, nouveaux domaines qui préoccupent nos amis du Monde Diplomatique. Est-ce que vous savez dans quel pays, chaque année, on tue 1,080 milliard de mammifères et d'oiseaux ? Et 410 000 tonnes de poissons. Eh ben, c'est en France. Le saviez-vous? C'est beaucoup quand même, hein? Voilà. Et ça donne prétexte à un papier sur l'humanité de l'animalité. Voilà. C'est un des papiers du diplôme. Il n'y a pas que ça. Et on va évoquer un certain nombre des articles de ce mois-ci avec la fine équipe du Monde Diplomatique. Pas si diplomatique que ça. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie J'y suis au 01 56 40 37 37.
Petit texte oral, pré-électoral. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans, de pompiers, d'intermittents, de routiers, de lycéens, de prisonniers, de sans-abri, de démunis et d'infirmiers, d'étudiants, de collégiens, d'opposants à Sarkozy, de réfractaires à De Villepin, de toute sa clique, faut que ça claque, de Borloo à De Robien, en passant par Rizzo, par hasard, Alain Minc ou Glucksmann, de ceux qui tirent les mannes nettes de la telle haie ou d'Internet, devant la haie de mon champ, reprenons donc des chants, pour qu'on ne soit pas oublié après. Ciao, merci Daniel.
Bonjour, c'est la suite des événements pour le lycée Théophile Gautier, Paris 12e, contre l'expulsion de Madame Hu, qui doit finalement passer au tribunal demain matin à 9h, dont l'appel a été rejeté et qui paraît comme incarcéré, et non pas en liberté. 300 élèves du lycée Théophile Gautier viennent de manifester devant le rectorat et être reçus par le cabinet du recteur, qui s'engage à faire pression sur la préfecture pour que soit levé l'expulsion, l'arrêté d'expulsion. Nous allons donc à la préfecture de ce pas, manifester devant la préfecture, et nous serons demain matin à partir de 8h30 devant le tribunal de la rue de Jouy à Saint-Paul, le tribunal administratif de Paris métro Saint-Paul 7504, et nous serions très heureux d'avoir de l'accompagnement pour nous aider à empêcher cette expulsion. Merci, au revoir.
Salut Daniel, c'est Freddy, je suis un jeune enseignant en Vendée et je voulais t'appeler pour dire aux gens que j'en ai marre d'entendre De Villiers vanter le modèle vendéen partout à la télé et dans les journaux, et c'est également où on retrouve ce soi-disant modèle vanté avec ces soi-disant peu de chômeurs. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on en a marre de nous faire piquer notre identité par ce plouc. On a honte de lui et c'est beaucoup moins idyllique qu'on peut le penser. Il suffit de vous renseigner, par exemple, à la CGT, il vous dirait bien les bons chiffres. Mais surtout, on en a marre d'être représenté par lui et il représente pas tous les Vendéens, loin de là. Merci Daniel, salut.
Salut, c'est Daniel Mervet, la basse où j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique, pas si diplomatique que ça. Flight number 2, arriving from... Alors nous voilà autour du numéro 2 février du Monde Diplomatique, et on va commencer par la Somalie. Alors, selon vous, Ignacio Ramonet, les États-Unis d'Amérique, ou plutôt George W. Bush, ouvrent un troisième front en Somalie, sinon même un quatrième front. Alors qu'on pourrait penser que les récents succès des démocrates entraînent une politique un peu de retrait, de modération, mais pas du tout selon vous.
Voilà, non, c'est-à-dire d'abord, la modération, on ne l'aperçoit pas. On a pu le croire un peu lorsque le rapport Baker-Hamilton a été publié. On se disait finalement, il va falloir tenir compte maintenant du rapport de force différent au Congrès. Mais d'une part, on voit qu'en Irak, il y a la même politique renforcée, agressive. Et puis effectivement, l'ouverture d'un presque quatrième front, parce que je veux dire, en principe, c'est quand même un troisième front pour les États-Unis.
Après l'Irak et l'Afghanistan.
Voilà, mais cet été, le président Bush avait déjà dit que, si vous voulez, l'affrontement Israël-Hezbollah, c'était un troisième front. Donc, il y a là l'ouverture d'un nouveau front, disons, avec la participation des forces américaines dans cette nouvelle guerre de Somalie. Il y en avait déjà une... En 1993-94, on se souvient du débarquement, on se souvient également de la chute du Faucon Noir, hein, le film de Ridley Scott, et du départ précipité des Américains. Il y a là une nouvelle intervention qui est un peu présentée maintenant par certains, disons, stratèges américains comme un peu le modèle de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que on utilise une puissance comme l'Éthiopie, qu'on arme, qu'on équipe, qu'on va guider grâce à l'apport technologique, notamment des satellites qui vont permettre de baliser le terrain. Et puis, on utilise la force de ce voisin, l'Éthiopie, pour, en quelque sorte, occuper le sud de la Somalie et occuper Mogadiscio. Et on vient ensuite en renfort avec des forces spéciales pour essayer de traquer les amis d'Al-Qaïda que les Américains prétendent qu'ils se trouvent parmi les hommes des tribunaux islamiques somaliens. Il faut dire que les tribunaux islamiques avaient été en quelque sorte un recours de la population de Mogadiscio, notamment des commerçants qui ne supportaient plus les chefs de guerre. Les chefs de guerre qui avaient vidé les Américains en 1993-94, mais qui s'étaient rendus tellement insupportables que la population de Mogadiscio aujourd'hui voulait leur départ, alors qu'entre-temps, ils étaient devenus les alliés des Américains. Les Américains, aujourd'hui, ont comme alliés en Somalie les chefs de guerre et, bien entendu, l'Éthiopie. Et ces tribunaux, en quelques mois, avaient rétabli l'ordre et la sécurité à Mogadiscio, avaient réussi à faire fonctionner, ce qui est quand même fondamental, l'aéroport et le port de Mogadiscio, donc... à redonner en quelque sorte un poumon économique à la ville et à sa région, et d'autre part, avait réussi aussi à rouvrir un certain nombre de ministères qui commençaient à fonctionner. Donc il y avait une ville qui se mettait en place. Donc ça allait dans le sens de ce que souhaitait la communauté internationale, c'est-à-dire qu'il y ait un État en Somalie. Mais un État en Somalie, quand on parle de la Somalie, il faut dire que la Somalie, à l'heure actuelle, est divisée en trois grand morceau, c'est-à-dire le Somaliland au nord, le Puntland qui est le nord de la partie sud, verticale si l'on veut, et puis à peu près de Mogadiscio jusqu'au sud, la Somalie telle qu'on la décrit actuellement. Et les deux autres régions sont tenues par des chefs de guerre qui sont devenus en quelque sorte des seigneurs féodaux qui contrôlent leur région, et c'est de Mogadiscio dont il s'agit, le débat tourné autour de cela. Il est évident que, dans la situation actuelle, les tribunaux islamiques, ce qu'ils ont fait, c'est se disperser dans le territoire. Quand on parle de nouvelles stratégies, l'impression que l'on peut avoir, c'est qu'en Somalie, il se passe à peu près ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire qu'on remporte la bataille, on occupe la capitale, mais les adversaires se sont, en quelque sorte, dispersés pour s'organiser, pour conduire une guerre asymétrique. Donc là, on a à peu près la même chose, car les tribunaux n'ont pas présenté de résistance aux Éthiopiens, qui sont arrivés avec leurs tanks soviétiques et avec leurs MiG soviétiques, également dans une armée de grande puissance. Et aujourd'hui, on va voir un peu une guérilla se développer. Donc, l'impression que l'on peut tirer, c'est que cette guerre paraît gagnée. Mais d'une part, on observe qu'aucun pays africain, par exemple, n'est prêt, à part l'Ouganda, à envoyer des forces pour constituer un corps de paix. Que les Éthiopiens n'ont qu'un souci en ce moment, c'est de se retirer, après avoir répondu, évidemment, ils ne pouvaient pas faire autrement à l'injonction américaine. Et que la Somalie va très vite sombrer de nouveau dans le désordre, avec... évidemment, ces tribunaux islamiques qui ne vont faire que se renforcer. On va voir une guerre
comme en Irak, comme en Afghanistan, avec le retour des talibans.
Voilà.
Là, mais ce n'est pas du tout comme ça. Là. Ça, c'est l'édito du Monde diplomatique de ce mois de février. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça a été présenté, Ignacio Ramonet, hein, cette
tout.
Affaire. On nous a présenté des Éthiopiens courageux avec un soutien des États-Unis, d'ailleurs assez discret ce soutien. Hein, et on nous a présenté des gens qui, comme d'habitude, luttent pour la qui sont des chrétiens, on n'a pas oublié de rappeler ce que sont les Éthiopiens, des chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont du bon côté, luttant contre, une fois de plus, les islamistes gagnés et travaillés par Al-Qaïda.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que les tribunaux islamiques ont occupé Mogadiscio en juin dernier, et que déjà cet été, lors de l'affrontement Israël-Hezbollah, on a diffusé beaucoup d'informations en disant que les forces du Hezbollah étaient renforcées par des islamistes somaliens qui avaient été déplacés, véhiculés, acheminés par l'Iran dans le sud du Liban. Donc, il y a l'idée que les Américains ont beaucoup développée de dire tout ça, c'est un même front. C'est le front d'Al-Qaïda qui est présent donc en Afghanistan, qui bien sûr est le responsable principal de ce qui se passe en Irak, alors que ce n'est pas vrai, et bien entendu qui va s'emparer d'un nouveau pays pour le transformer en quelque sorte en un nouvel Afghanistan, une nouvelle école de terrorisme. C'est ça la présentation qui en a été faite.
Oui, mais ça on peut... Quand même, les stratèges américains ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien ce qui va se passer. Lorsqu'ils opèrent en Irak comme ils le font, en Afghanistan comme ils le font, et là maintenant en Somalie comme ils le font, ils savent très bien qu'ils se fabriquent des ennemis. Alors quel est le sens de cette fabrication de la violence, de la fabrication d'un ennemi ?
Alors, il y a deux écoles chez les stratèges, puisqu'on voit bien qu'il y a des stratèges qui disent qu'aujourd'hui, finalement, la politique telle qu'elle a été conduite, elle a été productrice, en quelque sorte, d'un nombre exponentiel d'adversaires, et non pas de réduction des adversaires. Ça, on l'a vu, c'est le rapport Baker-Hamilton. Mais on continue d'avoir un certain nombre de stratèges qui disent c'est une guerre subversive et il faut appliquer les techniques de la guerre subversive. On sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire élimination directe des dirigeants. C'est ce que les Américains ont essayé de faire dans le sud de la Somalie. Ou bien, bien entendu, c'est-à-dire la pratique de toutes sortes de méthodes, torture, enlèvement, prison secrète, pour essayer de la combattre. Les deux écoles ne sont pas, en quelque sorte, ne sont pas arrivées à un point intermédiaire de synthèse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce désordre général contribue. Derrière, il y a toujours, on le sent maintenant, l'accusation contre l'Iran. Les tribunaux islamiques, par exemple, c'était, évidemment, d'abord, ils étaient soutenus, financés, disait l'information américaine, soutenu, financé, armé par l'Iran. Et donc, on voit comment, dans ce désordre général, petit à petit apparaît l'idée que, finalement, c'est une intervention contre l'Iran, une frappe contre l'Iran, qui mettra un terme à la fois à l'insurrection en Afghanistan, à l'insurrection en Irak, qui va calmer les chiites du Hezbollah, et bien entendu qui va apaiser la Somalie.
Together, 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 together la corteste che ne ti che la nanci mi ce cresci che la corteste che ne ti che la nanci mi ce cresci che la beu bat maraki che la narco che perderesci che la men fa dafni pioni che la nalperante i ti che la nial qui si terasci che la nina calpo i ti che la nitu calabizu senta le meio tu e tu che la nitu calabizu senta le meio tu che la cille mai ne pereu che la giorno se hai monali che la cille mai ne pereu che la giorno se hai monali che la besi mi stacchimo che la nieta me me udivane che la se mi è mai vecchireu che la me fecchiri verdane che la so cale mi criati che la terra so me ci abnane che la nitu calabizu senta le veio tu
Voilà, toujours avec l'équipe du Monde diplomatique autour de ce numéro de février. L'Amérique latine est un des terrains de prédilection de l'équipe du Monde diplomatique. L'Amérique latine a basculé à gauche, mais quelle gauche ! Ça va du rouge vif au rose pâle. Comment s'y retrouver ? Heureusement, Maurice Lemoine est là.
Mais c'est vrai que quand on évoque cette gauche, ou plutôt ces gauches, on évoque surtout Chavez, on évoque Lula au Brésil, on évoque Evo Morales en Bolivie, et puis il y a un petit pays qui passe relativement inaperçu, qui est l'Uruguay. Et au bout du compte, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc, Edouard Belvi est allé en Uruguay pour nous, et en fait, on s'aperçoit que ça confirme ce que, quand même, on répète maintenant depuis un certain temps, c'est qu'il n'y a pas une gauche en Amérique latine, mais qu'il y a des gauches. L'arrivée de la gauche en 2004 en Uruguay, avec le président Tabaré Vázquez, a permis dans ce pays de remettre à l'ordre du jour ce que je vais appeler les scories de la dictature. Vous savez qu'il y a eu en Uruguay, comme dans tous les pays du cône sud, une dictature pour l'Uruguay entre 1973 et 1985. Et puis, dans le cadre de la transition à la démocratie, les premiers gouvernements ont passé, comme un peu partout, un accord avec les militaires. Hein, ça s'appelle là-bas la loi de Caduta, c'est un truc très compliqué, ça veut dire amnistie. Hein, ça veut dire amnistie pour les tortionnaires. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ben, ma foi, tout ça, il y a une chape de plomb, une chape de silence qui a recouvert les exactions de la dictature civico-militaire. Et puis l'arrivée au pouvoir de Tabaré Vázquez permet actuellement de remettre en particulier sur la table le problème des détenus disparus, qui a été une des techniques utilisées dans toute l'Amérique latine, en particulier à travers le plan Condor. Et pour la première fois depuis le retour de la démocratie, des recherches ont été entamées pour retrouver les traces de ces détenus disparus, avec toutes les difficultés que ça implique, puisque dès l'arrivée au pouvoir de Tabaré Vázquez, un cri s'est fait dans le pays, il faut faire la vérité sur ce qui s'est passé à cette époque. Des enquêtes ont été ouvertes, les preuves commencent à se multiplier, et donc là on a un premier effet qui est évidemment un début de confrontation avec la droite, parce que l'un des éléments qui va ressortir de ces enquêtes qui sont menées actuellement, c'est que le pacte secret passé entre les dirigeants à l'époque de la dictature et puis leurs subalternes, en fait, il est toujours en vigueur. Hein, c'est-à-dire que les difficultés se multiplient devant les recherches, les militaires s'accrochent à la thèse, ils ont été tués, ils ont été brûlés, on ne sait pas où sont les corps. Or, les découvertes se multiplient, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une répression terrible dans le cadre du plan Condor. Donc ça, c'est un premier point positif, d'une certaine manière, du gouvernement de gauche, c'est de remettre la vérité, le thème de la vérité, au premier plan. Ensuite, en ce qui concerne la situation sociale, on peut dire là aussi que comme dans la... quasiment tous les pays où la gauche est au pouvoir maintenant depuis quelques années, la situation sociale s'est un peu améliorée. Il n'y a pas de miracle, bien sûr, il ne peut pas y avoir de miracle. Mais c'est vrai que le chômage est en régression, on est passé de 16,5% à 10,5%. La situation économique va mieux. Mais en même temps, il y a des contradictions. Il y a évidemment des contradictions. Et là, on sort du cadre de Hugo Chavez, Evo Morales ou Correa en Équateur, qui sont sur une ligne radicale, puisque l'Uruguay dont il faut rappeler que c'est un petit pays qui est coincé entre ses partenaires du Mercosur, le marché commun du Sud, hein, qui sont le Brésil et l'Argentine, qui sont des puissances dominantes. A vu certes son économie s'améliorer du fait qu'il vend de la laine, de la viande, en particulier avec une demande de la Chine, mais qu'en même temps, il ressent le sentiment, de compte tenu de ses difficultés avec ses deux grands voisins, d'élargir ses marchés. Et donc, s'est posée, évidemment, la question de la signature potentielle ou hypothétique d'un traité de libre-commerce avec les États-Unis, qui, évidemment, est en contradiction avec la vision de gauche traditionnelle en Amérique latine. Et là, on voit, au sein même du gouvernement, qui est un gouvernement, le Frente Ampli, ou le Front élargi, comme on l'appelle, qui est une coalition qui va des anciens Tupamaros, des anciens guerrieros, jusqu'aux démocrates chrétiens, on voit apparaître des contradictions, hein, puisque sous l'impulsion du président Tabaré Vázquez, il a été envisagé de signer un traité de libre-commerce, et qu'évidemment, on allait le gauche du gouvernement, représenté en particulier par le ministre de l'Agriculture, José Mujica, qui est un ancien militant Tupamaro, qui, eux, évidemment, refusent totalement le traité de libre-commerce. Jusqu'à présent, le président Tabaré Vázquez a reculé sur la signature de ce traité, mais entre le moment où nous avons terminé le numéro dont nous parlons et l'heure où nous parlons, c'est-à-dire vendredi dans l'après-midi, un accord bilatéral du commerce et de l'investissement a été signé avec les États-Unis, qui est l'antichambre potentielle de la signature d'un traité de libre-commerce. Bon. Donc là, on est dans une gauche qui est effectivement différente de celle de Chavez et Morales. Et puisque nous parlons des traités de libre-commerce, il faut souligner que l'affaire n'est pas terminée, parce que ça bouge aussi du côté des États-Unis. Depuis le 7 novembre, les démocrates sont majoritaires au Congrès, or les démocrates viennent de demander au Pérou, à la Colombie et au Panama, qui ont déjà signé un traité de libre-commerce, de revoir ce traité de libre-commerce, c'est-à-dire qu'ils refusent de le ratifier. Les États-Unis refusent de ratifier le traité de libre-commerce et demandent à revoir la protection des lois du travail dans ces pays d'Amérique latine. Ceci, évidemment, ayant pour but de protéger les travailleurs des États-Unis. Donc on est là au cœur des contradictions à la fois des gauches latino-américaines, mais y compris des rapports entre Amérique latine et États-Unis. Esta vez se te adelantó, la mala suerte te persigue hasta durmiendo, el sombrero se te vendió. La golondrina no mira al mar fatal, en la rima donde fuiste a parar. Problem, te quita y pone de dos cajones que tapa mi cuerpo así. Cuando se calienta aquí, llega el problema que me inquieta. Ya no hay comida, ya no, la policía llegó, la ropa sucia quedó. Ese sistemita que nos pone así, ve. Mucha democracia y esto pa' que si ve. Si de papel es carejo, si por ser negro apesto. En esta sociedad corrupta, injusta, absurda. Escucha, di lo que te mando yo. Pitlo, oh no, tome el negro, oh no, tome el negro. Yo, te corro a la calle. Y dile cuántos mueren de frío, son desgraciados, pasan a tu lado y que bájase. Cuántos son falsos testigos de crímenes, suicidios, terrible castigo. Y no puedes ver cómo se vive en ciudad. Cuéntame el estrés, cómo te fue esta vez, man. Cómo se vive en soledad. Te miran, te tachan, rechaza y no pasa nada. Te corro la calle, compa, y saca el sombrero. La vida a veces, mano, tiene cosas que me asombro. Unos pasan de madre, otros mueren a la sombra. ¿De qué realidad nos queremos quejar? Dura esta pinche calle, Mr. Bon y sus desmadres. Para el pobre no hay funeral.
Alors, on continue avec le diplôme de ce mois de février. Dominique Vidal a parlé de Jérusalem, enfin d'Israël, et il va faire un exercice extraordinaire. Depuis, on se connaît depuis des années, ça fait des années que chaque mois vous entendez Dominique Vidal, et là il va se livrer à un exercice extraordinaire, c'est dessiner une carte de géographie à la radio. Regardez bien votre transistor, Dominique Vidal s'approche et dessine Jérusalem.
Je vous promets, Daniel Mermet, de le faire dès que votre émission passera à 17h à nouveau. Ce qui est vrai, c'est qu'on a fait un exercice un peu original avec Philippe Rekasevitz, qui est le cartographe du monde diplomatique, qui est, on a appelé ça un reportage cartographique. C'est-à-dire, on a essayé de mener de front, pendant 15 jours sur place, une enquête journalistique traditionnelle, mais en même temps une enquête de terrain permettant la réalisation d'une carte originale. Quel est l'objet de cette carte, de cette enquête ? c'est de montrer comment on assiste à Jérusalem à une accélération de tous les instruments mis en œuvre par Israël pour annexer Jérusalem-Est. C'est-à-dire, au-delà du détail, pour empêcher la création d'un État palestinien et empêcher que cet État palestinien éventuel ait Jérusalem-Est pour capitale. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un enjeu tout à fait majeur et non pas seulement d'un problème local sur le terrain. Ce qui frappe le plus, c'est le mur. C'est vraiment comme Berlin. On ne peut pas échapper au mur, comme à l'époque à Berlin. Partout où qu'on aille, on voit le mur. Le mur ou une barrière, mais qui correspond au mur, avec toute une technologie qui permet de repérer le moindre mouvement autour de cette barrière de grillage. Ce mur, ce qui frappe d'abord, évidemment, c'est qu'il divise entre...
Pas que grillage, il y a béton, il y a
béton.
Tout. Oui.
Non, massivement à Jérusalem, c'est du béton. C'est du béton, c'est-à-dire un mur de 8 à 10 mètres de haut, absolument monstrueux quand on le voit. Il divise, comme un peu partout, Israéliens et Palestiniens. Mais ce qui frappe à Jérusalem, c'est qu'il divise surtout Palestiniens et Palestiniens. Et surtout, il est presque complet, le mur. Il y a encore une partie autour de Mahalé Adoumim, qui est cette grande colonie qui va vers Jéricho et vers la mer Morte. Mais il est quasiment en place. Et il boucle complètement la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des Palestiniens ne peuvent plus rentrer à Jérusalem. Ne peuvent plus, c'est-à-dire faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école, aller à l'hôpital. Il n'y a plus que 4 points de passage. Et à ces points de passage, si on n'a pas la carte bleue, non pas celle de visa, mais la carte bleue d'identité qui est celle des résidents de Jérusalem-Est, on ne peut pas entrer. Donc, tout se passe autour de ce mur, qui est le personnage omniprésent, je dirais, monstrueux, de la ville de Jérusalem aujourd'hui. Mais on aurait tort de penser que le mur tombe du ciel et que c'est tout d'un coup que les problèmes se posent. En fait, le mur, c'est un peu le couronnement de 40 années d'annexion progressive de Jérusalem-Est. Et on a essayé avec Philippe Rekasewicz de décrire les principaux outils de cette annexion. Le premier point, la plupart des Français l'ignorent, c'est l'extension des limites géographiques de Jérusalem-Est. La vieille ville, elle fait 1 km². Là où il y a le mur des Lamentations, la mosquée Al-Aqsa, la mosquée d'Omar, c'est 1 km². La ville jordanienne, jusqu'en 1967, c'est 6 km². Et puis en 1967, les Israéliens ont étendu les frontières pour encercler 70 km², pour y mettre toutes les colonies, je vais revenir, qu'ils ont développées. Si aujourd'hui le mur est terminé, il comprendra à l'intérieur 164 km². Vous voyez, donc, l'annexion, c'est d'abord une extension des limites pour, deuxième instrument, coloniser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 250 000 des 500 000 colons israéliens que compte la Cisjordanie sont à Jérusalem. C'est-à-dire la moitié des colons sont à l'intérieur de Jérusalem. Troisième instrument, très important, la maîtrise des voies de communication. Toutes les voies de communication palestiniennes ont été coupées, sauf une. Il ne reste qu'une seule route qui permet d'aller du nord au sud de la Cisjordanie en passant par Jérusalem. Toutes les autres sont coupées et les Israéliens ont développé leurs propres voies de communication, mais qui sont pour l'essentiel interdites aux Palestiniens. On a souvent des discussions un peu théoriques sur le mot apartheid. Alors pour ce qui est des routes, il n'y a pas le moindre doute. On est dans un système de circulation qui est placé sous le signe de l'apartheid. On a même d'ailleurs des routes où il y a deux voies et au milieu un mur pour éviter que les Israéliens et les Palestiniens ne puissent se croiser. Et d'ailleurs, Dani Tirtza, qui est l'inventeur du mur et le dessinateur de son tracé, a prévu toute une série de ponts et de tunnels pour que quand vraiment il faut que les Israéliens et les Palestiniens participent d'un même espace, ils ne se voient pas, ils ne puissent pas se croiser. Quatrième instrument, lui aussi très souvent sous-estimé ou méconnu.
Pas facile de se séparer.
Ah non, c'est très compliqué. Quatrième instrument très méconnu, c'est la judaïsation de la vieille ville de Jérusalem et des quartiers arabes. Judaïsation, ça commence par le décor, par exemple. On met les mêmes pavés qu'à Jérusalem-Ouest. On met les mêmes lampadaires qu'à Jérusalem-Ouest. On installe les mêmes poubelles. On met les mêmes noms de rues. Alors, il y a tout un développement là-dessus. J'invite vos auditeurs à le lire sur les noms de rues qui ont été donnés tout autour de Jérusalem-Est par la municipalité israélienne. Mais la judaïsation, c'est aussi la destruction des maisons palestiniennes. Et ça, je dois dire qu'aussi bien Philippe Rekasevitz que moi, c'est un spectacle qui nous a marqué pour longtemps. Quand on voit des bulldozers en train de détruire une maison avec la famille qui est juste hors de la maison, qui a réussi en quelques minutes à sortir, qui une chaise, qui une table, qui un lit, qui des jouets, et que le bulldozer tape, et qu'on s'aperçoit ensuite que la destruction est illégale, parce que la cour avait ordonné le gel de la destruction. Et de toute façon, ce qu'on appelle illégal, c'est simplement le fait qu'à Jérusalem, si vous êtes juif, vous pouvez construire votre maison, si vous êtes palestinien, vous n'avez pas de permis. Ou très rarement, ou à un prix très, très élevé. Donc c'est tout ça aussi, la judaïsation. C'est pas seulement la colonisation, c'est aussi la destruction de la Jérusalem arabe. La dernière chose, le dernier instrument sur lequel on insiste, qui me paraît important, c'est la discrimination systématique entre habitants palestiniens et habitants juifs de Jérusalem. Un juif à Jérusalem est citoyen. Il a tous les droits du citoyen. Un palestinien qui n'habite pas Jérusalem même, il n'a aucun droit. Il n'a même plus aujourd'hui celui, je le disais, d'y venir à Jérusalem-Est. Quant aux autres, ceux qui ont la fameuse carte bleue, eh bien, ils ont, en principe, le droit de séjourner à Jérusalem et le bénéfice de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Mais attention, tout cela est remis en cause par le mur. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on est exclu de Jérusalem par le mur, donc on n'a plus son centre de vie à Jérusalem, c'est la politique dite du centre de vie, c'est-à-dire il faut vivre et travailler à Jérusalem, alors à terme, on perd sa carte de résident. On devient un Palestinien exclu. Et je reviens au mur pour terminer. Ce qui est extraordinaire quand on regarde la carte de Philippe Rekasevitz, qui est une carte complexe qu'il faut voir de près, c'est comment le mur fait d'étranges boursouflures, comme un trèfle, pour intégrer de nouvelles colonies juives, avec des dizaines de milliers d'habitants nouveaux, au nord, à l'est et au sud. Mais comment, si vous me passez l'expression, il se serre la ceinture pour exclure des quartiers entiers qui sont des quartiers arabes. Et alors c'est une première dans l'histoire israélienne. On sait que les Israéliens, en 1948, en 1967, ont expulsé massivement les Palestiniens à l'occasion des guerres. Mais là, pour la première fois, des dizaines de milliers de Palestiniens sont expulsés sans avoir bougé. C'est le mur qui, lui, a bougé et qui est venu les extraire, les expulser physiquement de Jérusalem. Donc c'est tout ça qu'on essaye de montrer à travers ce reportage et cette enquête. C'est évidemment un enjeu, je le disais, absolument majeur. Et en particulier, je veux terminer là-dessus, l'affaire de Mahalé Adoumim, non pas seulement de la colonie de Mahalé Adoumim, où il y a actuellement 50 000 colons juifs, mais de l'ensemble de la surface du bloc, comme on dit là-bas, de Mahalé Adoumim, y compris la fameuse zone E1, dont on a souvent parlé. Si ce bloc est définitivement intégré à Jérusalem par le mur, alors il n'y aura pas d'État palestinien, parce que cet État palestinien sera coupé en deux par ce bloc. Et il n'y aura plus de Jérusalem-Est capitale, parce que la seule zone de développement possible pour Jérusalem-Est, aujourd'hui enserrée dans le mur, c'est cette zone E1 dans le bloc de Mahalé Adoumim. On est donc devant une question absolument décisive. On a l'impression qu'Israël est en train de mettre les bouchées doubles pour créer sur le terrain des faits accomplis qui ne seront pas remis en cause par la négociation. Et à mon sens, c'est ça le sens de toute cette stratégie qui a été mise en œuvre et qui est mise en œuvre avec, je le répète, une accélération formidable dans les derniers mois.
je suis donc avec Vladimir Poutine, Monsieur Poutine, Alexandre Litvinenko, ancien espion du KGB, mort empoisonné à Londres, un poison versé dans son thé, apparemment.
Et alors, quoi, moi, avoir avec ça?
Hein? Non, rien, mais comme il enquêtait sur la journaliste russe Anna Politkovskaya, assassinée parce qu'elle travaillait sur les massacres en Tchétchénie...
Et alors, quoi, moi, avoir avec ça?
Eh ben, ça va peut-être vous surprendre. En tous les cas, moi, j'ai été surpris en lisant le diplôme de ce mois-ci dans un article signé de Jean-Marie Chauvier, un très, très bon observateur de la Russie. C'est pas si sûr qu'on soit dans l'obligation d'accabler notre ami Vladimir Poutine. En tout cas, il semblerait bien que cette suite de crimes, si on pose la question à qui rapporte le crime, il se pourrait bien que ces crimes n'aient pas spécialement rapporté à Vladimir Poutine. Alors, à qui? Eh bien, Jean-Marie Chauvier répond en partie à cette question, mais il répond plus largement à la question de savoir où va la Russie de Poutine. Jean-Marie Chauvier.
Oui, je crois qu'il faut se situer dans un cadre plus général. Nous sommes là dans à peu près à 20 années du début des grandes transformations. La première étape étant sous Mikhail Gorbatchev, la glasnost, qui était une ouverture à la liberté d'expression, à la prise de parole des citoyens, et la perestroïka, reconstruction, qui s'est avérée de fait une déconstruction du système. Une deuxième étape, et c'est à cette occasion qu'on a utilisé pour la première fois ce terme qui figure dans le titre de l'article « La nouvelle Russie », c'était la politique sous la présidence de Boris Yeltsin, politique caractérisée par la thérapie de choc, les privatisations, la formation d'un capital financier et d'une oligarchie financière et pétrolière qui a joué un rôle très déterminant, surtout dans la deuxième moitié des années 90. Et puis nous avons une troisième période, la période de Vladimir Poutine, qui devient président l'an 2000, premier ministre l'année précédente, et une période qu'il faut sans doute diviser en deux parties. Il y a une première partie dans laquelle Poutine est placé sur orbite, entre autres choses, pour mener avec l'énergie qu'on connaît la deuxième guerre de Tchétchénie, dans un premier temps qui est marqué par les attentats du 11 septembre et la dite alliance stratégique avec les États-Unis dans la lutte antiterroriste, qui est marquée par la poursuite ou la reprise des réformes très libérales, sinon ultra-libérales, qui avaient donné les résultats que l'on sait dans les années 90. Dans cette première période, Vladimir Poutine, en fait, ne change pas fondamentalement les orientations qui avaient été celles des 10 années précédentes. Dans une deuxième période, qui se situe en 2003, 2004, 2005 et 2006. Deuxième mandat. Et qui correspond grosso modo à son deuxième mandat, bien que ça commence déjà avant le deuxième mandat, il y a une réorientation à la fois dans la politique économique, avec la reprise en main par l'État d'une partie du secteur de l'énergie, 51% de Gazprom, le monopole du gaz. Et aujourd'hui, à peu près, on est à 35-40% du secteur pétrolier récupéré, qui appartenait donc en plus grande partie à ces oligarques dont on a parlé, à ces oligarques qui avaient été servis ou qui s'étaient servis.
Il y a quand même un cas de renationalisation.
J'ai utilisé le terme renationalisation, si je ne me trompe, avec des guillemets. Il y a sans doute une déprivatisation, il n'y a pas de renationalisation. On ne va pas, il faut sortir des fantasmes de la restauration du régime soviétique, du néo-soviétisme, etc. Toutes ces expressions qui ont eu cours dans notre presse. Il s'agit bien, la Russie est bien entrée dans l'ère du capitalisme et de la mondialisation. Il n'y a aucun doute à cet égard. Et il y a formation de grands groupes économiques dans des secteurs où la Russie estime disposer d'atouts majeurs pour son redéploiement de puissance, principalement l'énergie, le gaz, le pétrole, mais aussi l'armement, la métallurgie, la construction mécanique, l'aluminium, où la Russie s'est positionnée, l'espace, bien entendu, l'aéronautique, y compris le déploiement, et ça c'est une grande nouveauté, et qui fait beaucoup de surprises en Occident, c'est le déploiement de transnationales, je dirais, de la Russie, ou des firmes russes, sur la scène du capitalisme transnational. Donc, il y a une politique dans ce sens-là, dans laquelle Poutine ne fait pas sauf erreur, je ne crois pas qu'il procède tout simplement à un repartage du gâteau, n'est-ce pas, dont il enlève des morceaux aux oligarques des années 90 pour les donner à des oligarques de sa compagnie de Saint-Pétersbourg, issus du KGB, du FSB, etc. Les oligarques des années 90, comme on dit en Belgique, 90, rappelez-vous, ont reçu quasiment en cadeau les fleurons de l'industrie pétrolière. La veille des élections présidentielles de 96, les sept banquiers, comme on les appelait, qui étaient les maîtres d'œuvre de la finance, des grandes entreprises pétrolières et médiatiques, et des médias, très importants les médias, en échange de leur soutien financier et médiatique à Boris Yeltsin, dans cette campagne électorale où Yeltsin risquait de perdre, d'après les sondages, risquait de perdre face au candidat communiste Zyuganov, ont reçu en échange, pour quelques centaines de millions de dollars, des entreprises pétrolières, principalement, qui ont été cotées en bourse deux ans, trois ans plus tard, à plusieurs milliards de dollars. Ils ont reçu ces entreprises en cadeau, et la situation de l'époque les incitait aussi à ne pas payer les impôts, et à évader le plus possible de leurs capitaux vers les paradis offshore. C'est ce qu'on appelle en Russie, d'ailleurs, aujourd'hui, l'aristocratie offshore. Alors, je ne pense pas que la politique de Poutine aille dans ce sens-là. La politique de Poutine va aussi dans le sens de la collecte des impôts. Elle va dans le sens de chercher des moyens de retenir, mais il n'y arrive pas, hein. Il n'y arrive pas facilement de retenir l'évasion des capitaux, de faire revenir une partie des capitaux russes. Et il en revient. Notamment, bon, quand vous voyez les investisseurs étrangers en tête des pays qui investissent en Russie, vous voyez Chypre. Pourquoi Chypre, hein? Pourquoi Chypre? Mais évidemment parce que Chypre est une des bases principales d'implantation des capitaux russes à l'étranger. Donc il y a des capitaux russes et qui reviennent. Il y a une politique de relance qui pourrait aller sous la direction de l'État. Je parlerai plutôt d'un dirigisme d'État qui pourrait aller jusqu'à une diversification, une politique de diversification, donc de sortie du tout pétrole. Enfin, c'est un débat. Sortir du tout pétrole, réaliser des projets nationaux en matière d'infrastructure, d'enseignement, de santé publique. Parce que, vous le savez, on le souligne également dans l'article, la Russie a connu maintenant 6 années de très forte croissance et aussi de croissance des revenus. Et un élargissement de la base sociale du régime avec la formation de ce qu'on appelle une classe moyenne. Alors, pour définir ce que c'est et dans quelle proportion, c'est un vaste problème. Mais en tout cas, il y a une masse de gens qui consomment, il y a une demande intérieure en hausse, et c'est très visible au premier coup d'œil. Hein. Vous voyez maintenant, par rapport à il y a 2-3 ans, vous voyez de gigantesques supermarchés qui n'existaient pas. Il y a une classe moyenne qui...
Enfin, il y a aussi une très grande pauvreté, des inégalités dramatiques.
Bien sûr, il y a une pauvreté qui, paraît-il, recule, d'après les rapports de la Banque mondiale, mais c'est précisément ce que je voulais dire... Terminant la phrase, il y a une croissance, il y a un redémarrage économique, mais les tendances lourdes à la dégradation qui s'étaient observées dans la décennie précédente, ces tendances lourdes ne sont pas annulées, à savoir le vieillissement des infrastructures, le vieillissement des équipements industriels, des logements... La pauvreté, on peut discuter sur ce que c'est que le seuil de pauvreté. Les inégalités, on est tout de même passé d'une fourchette de 1 à 3 à la fin de l'époque soviétique à 1 à 25 aujourd'hui. Et ces inégalités continuent à se creuser. Ce sont des inégalités entre groupes sociaux, mais aussi entre régions, qui expliquent beaucoup de choses de la Russie actuelle. Donc les progrès, la croissance économique... n'annule pas les tendances lourdes.
Ce qui explique beaucoup de choses sur la Russie actuelle, c'est-à-dire le développement d'un certain nationalisme donc, que vous évoquez.
Entre autres choses, oui. La xénophobie, par exemple, l'émeute anti-caucasienne qui s'est produite en Carélie, à Konopoga, on a tendance à présenter ça comme des émeutes racistes. C'est un élément de l'explication. Mais il y a probablement une tendance, comme partout d'ailleurs, à ethniciser des réalités sociales qui sont les réalités d'une jeunesse désœuvrée dans les grandes banlieues, dans les régions sinistrées, qui sont aussi les réalités de gens qui ne sont pas spécialement dans les couches les plus pauvres de la population, qui sont aussi les petits commerçants, les petits entrepreneurs qui cherchent à prendre leur place et à obtenir en leur faveur, eux, russes de souche, un repartage des marchés et notamment des marchés de détail, des marchés au sens strict, limité du terme, où d'autres groupes ethniques, parce que ça existait, des mafias tchétchènes, caucasiennes, azéries, à côté des mafias russes, bien entendu, s'étaient octroyés des parts de choix dans les années 90. Donc c'est un peu l'explication aussi de ces tensions autour des marchés aujourd'hui.
Dominique Vidal.
Je voulais juste souligner l'extrême intérêt, évidemment, mais importance de l'analyse que fait Jean-Marie Chauvier de la réalité russe, qui est une analyse très fine, il faut lire l'article, parce que cette analyse permet de comprendre aussi l'évolution de la politique extérieure russe. C'est-à-dire, il y a évidemment un rapport, me semble-t-il, entre ce qu'il décrit, je vais vite, comme un recentrage et un nouveau développement de l'économie russe autour des atouts essentiels et pas seulement énergétiques de la Russie, une reconstruction, on en parle moins à l'instant, mais dans l'article Jean-Marie en parle longuement, de la scène politique russe. Évidemment, ça a un rapport avec le fait que depuis un certain nombre de mois, d'années, Vladimir Poutine est une position différente de ce qu'a été celle de la Russie dans les années de l'après 11 septembre. On avait l'impression un peu d'une filiale des États-Unis, je vais vite, mais on avait l'impression d'un suivisme à l'égard des États-Unis, comme si les États-Unis étaient le bouclier derrière lequel la Russie allait pouvoir se reconstruire. Là, la Russie se reconstruit, semble-t-il, en tout cas elle commence à le faire, et elle affirme beaucoup plus ses propres intérêts, son désir d'autonomie, d'indépendance, de puissance, à la fois face aux États-Unis, mais aussi face à l'Europe. On voit bien que la négociation est une vraie négociation avec l'Europe, et aussi en Asie, dans le rôle qu'elle joue. On pourrait parler du rôle de la Russie à l'égard de l'Iran, dans l'affaire iranienne. Bref, on a le sentiment global d'une politique russe qui se réaffirme à l'étranger comme une politique indépendante de puissance, et ça correspond, voilà l'intérêt de l'article de Jean-Marie, à un développement sur la scène intérieure.
Voilà, beaucoup d'autres articles évidemment dans le Diplo de ce mois de février. Les dessins, effectivement, la carte de Jérusalem Est que Dominique Vidal nous a décrit. Un long papier sur le Pakistan, vous vous souvenez de notre suite de reportages en Afghanistan, la montée des néo-talibans, et derrière ça, eh bien, qui est là? Hein, qui pousse. Alors, est-ce que c'est le Pakistan, le rôle des États-Unis, enfin, beaucoup d'autres articles dans le Diplo de ce mois de février. Merci à l'équipe. Il y avait Ignacio Ramonet, Dominique Vidal, Maurice Lemoine et Jean-Marie Chauvier. Et demain, on retrouvera Frédéric Lodéon pour une lumineuse, très très lumineuse, leçon d'économie, mais pas forcément comme les économistes que vous avez l'habitude d'écouter sur votre radio favorite. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous voulez. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Cédric Lalanne, c'est Yann Chouquet et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et Christophe Humbert se tient près du répondeur attendant vos observations, vos coups de gueule, vos coups de cœur au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.